Alors je vous dis très solennellement bonsoir Xavier Martinet, mais en fait on vous a déjà entendu dans cette émission, mais je vous salue à nouveau Xavier.
Je vous salue aussi.
Merci de nous accueillir dans votre petit salon, même s'il y a pas mal de pression ce soir, je l'ai dit, dans ce petit salon.
Pression, dépression, intrusion en tout cas politique dans les milieux des beaux-arts et surtout les musées en Russie. C'est une série d'articles d'Emmanuel Greenspan, le correspondant pour le Journal des Arts à Moscou, qui nous décrit cette situation en fait qui évolue depuis 5 ans, un tournant politique. Répète-t-il. Pour nos auditeurs, la situation était assez calme, on pourrait dire, depuis les procès faits au Pussy Riot en 2012. Mais de nouveaux éléments montrent que les choses bougent. Un des plus récents, c'est cette saisie de documents effectuée il y a 10 jours par la police dans le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, qui contient, vous le savez, les plus grandes collections du monde d'objets et peintures anciennes. Une énième commission d'inspection, officiellement du ministère de la Culture. Commission de contrôle, en fait, probablement des membres du FSB, dit un des responsables scientifiques du département de l'art occidental, qui a alerté le premier sur Facebook. Énième parce que ces dernières semaines, d'autres visites de ce genre ont eu lieu, rapporte The Art Newspaper. L'affaire concerne ici des documents sur un des plus grands transferts d'œuvres d'art, 250 tableaux vendus par l'Ermitage entre 1920 et 1930, parce que le Kremlin à l'époque cherchait à se renflouer. Alors l'opération est connue, elle n'est pas polémique historiquement, mais les 8 volumes d'archives sur le sujet ont été retirés des étagères du musée. La commission aurait même interdit la publication du 9e volume. La bureaucratie est-elle devenue folle ou alors c'est un désir paranoïaque de réécrire l'histoire? C'est du Kafka ou c'est du Orwell, poursuit ce curateur, selon lequel les mêmes événements se sont produits à Moscou, au musée Pushkin et au musée d'histoire également. Il faut faire attention cependant. D'une part, l'Ermitage minimise. Il a répondu officiellement et au journal The Art Newspaper Russia qu'il n'y avait pas d'interdiction de publier ses archives et qu'il s'agissait de perfectionner, au contraire, le système d'archives. D'autre part, cette affaire survient alors que le musée de Saint-Pétersbourg fait aussi l'objet d'une véritable enquête de police depuis quelques semaines liée à des soupçons de détournement de fonds. D'ailleurs, le 30 mars, le directeur adjoint du musée était arrêté et cette fois-ci bien par le FSB, dit lui-même l'Ermitage. Du côté du musée Pushkin à Moscou, on lâche un laconique. La situation est très compliquée. Reste donc cette saisie d'archives et les soupçons de réécriture officielle de l'histoire. Or, celle-ci coïncide avec un moment clé de la politique culturelle russe où, je cite Emmanuel Greenspan, le ministère de la Culture vient de réaliser qu'il pouvait promouvoir un art contemporain alternatif et ultra-conservateur. Ça fait l'objet d'un second article. Vous allez voir de quoi il s'agit. Emmanuel Greenspan note non seulement la proximité de plus en plus étroite entre le Kremlin et une génération d'artistes qu'on pourrait dire spécialisés dans les sculptures ou toiles souvent monumentales, de princes, de scènes guerrières ou religieuses. Plus largement, je cite Emmanuel Greenspan, le réalisme socialiste prend du galon. L'année dernière, un nouveau palier a été franchi avec un engouement inédit de la nouvelle bourgeoisie russe pour les maîtres soviétiques du genre. La galerie d'État Tretiakov à Moscou n'a pas hésité à mêler, elle, les contemporains officiels et ses maîtres disparus. Et d'ailleurs, une exposition d'État fin 2016 a, elle, mélangé contemporains respectés dans le monde de l'art mondial et puis les ultranationalistes russes. Un tournant dans les rapports entre l'État russe et l'art contemporain, continue Emmanuel Greenspan. Et il note aussi un retour au format soviétique de l'exposition collective. C'est discutable. Là encore, situation en tout cas ambiguë et parfois opaque. Elle l'est moins pour terminer en Turquie et en Pologne, même s'il ne s'agit pas de musée des Beaux-Arts. Turquie, où l'agence Anadolu a annoncé le 12 avril un musée en hommage aux victimes du coup d'État, 12 mm carrés sur la base aérienne Karaman Kazan, un des symboles justement de ce coup d'État. Pologne, où là, le très moderne musée anti-guerre sera remodelé en musée au service de la politique historique du pays. Ce parti au pouvoir écrit Gazeta Wyborcza, quotidien d'opposition. Les parcours de ce musée insisteront moins donc sur les victimes civiles européennes de l'extermination et la guerre que sur la souffrance et l'héroïsme militaire des Polonais. Voilà, Russia Beyond the Headlines, le site d'information officiel, a interviewé lui 3 directrices de musées français pour montrer la créativité des musées russes. J'ai été étonné, dit l'une d'entre elles, par l'énergie de mes collègues russes et par la façon de travailler à l'intégration de l'art contemporain dans un contexte culturel global, y compris au sein des plus hautes institutions. De fait, c'est le cas à l'Ermitage depuis 2014. Alors, qu'en pensez-vous tout simplement? Et puis, plus largement, jusqu'où les musées d'art peuvent-ils réécrire l'histoire?
Ah ben voilà, qui doit faire des objets de dissertation très longue, mais oui, enfin la présence de l'art contemporain du moment qui va dans le bon sens. C'est tout ce qu'on a entendu par rapport à votre chronique, mon cher Xavier. Florian Guettet, le retour du surréalisme socialiste, ça, vous nous avez dit ça quand même.
Oui, enfin, si il n'a jamais trop quitté le paysage russe, hein, non plus.
Pas complètement, oui.
Bon, que l'art puisse être un instrument de propagande pour les régimes autoritaires, c'est une histoire de la propagande qu'on connaît depuis longtemps. Moi, ce que ça m'évoque, en tout cas, cette histoire-là, c'est que c'est symptomatique, ou disons que ça révèle quelque chose de j'allais dire la nature de la conservation ou du geste de conservation qui de toute façon est intrinsèquement politique. Il a toujours été, il le sera toujours, il l'est évidemment dans les exemples que Xavier a cités. C'est finalement cette articulation du choix d'une conservation à une autorité, qu'elle soit liée à un pouvoir ou pas, est comprise en fait depuis le début de la cité grecque. C'était Hannah Arendt qui en parlait, mais Derrida aussi dans Mal d'archives, où il reprend l'étymologie d'arché et qui montre que arché, c'est à la fois commencement et commandement, et que les archéions, qui étaient en fait des salles de magistrats où on emmagasinait, où on conservait, les archives, étaient de toute façon des lieux de choix, des lieux de décision. C'est-à-dire que les magistrats décidaient ce qu'on a le droit de garder et ce qu'on doit oublier pour faire l'histoire. Donc finalement, exposer, archiver, conserver, documenter, ça met d'emblée en jeu une relation de pouvoir, et effectivement cette thématique doit être redoublée dans des contextes un peu plus totalitaires. Mais faudrait pas limiter finalement cette question à des régimes un peu spéciaux, un peu dur, puisque finalement, j'ai l'impression, en tout cas, si on reprend la définition que donne Deleuze d'informer, il dit finalement informer, c'est communiquer de l'information, c'est-à-dire nous dire ce que l'on est censé croire. Et finalement, j'ai l'impression que même dans les démocraties occidentales, du moment où on se place dans cet intérêt de communiquer, d'informer, ou de la pédagogie, etc., on tombe de toute façon dans ces problématiques-là. Donc je ne crois pas intrinsèquement à la neutralité, si vous voulez, du geste de conservation, ni à son objectivité, et tant mieux, parce que conserver, de toute façon, c'est faire des choix.
Très bien. Corinne Rondeau.
Qu'ajouter à ça Non, je suis à 200% d'accord avec Florian. Le monde démocratique n'est pas séparé de choix dans des situations dictatoriales très fortes. Et ça, je pense qu'on va y aller de plus en plus. On vit quand même sous un régime de mots d'ordre en continu qui rejoint la dimension de l'information, de la communication, citant Deleuze. Donc là, effectivement, je pense que c'est pas la peine de regarder trop loin pour s'énerver. Il ne faut pas s'énerver. Parce que je veux dire, simplement à l'intérieur de notre pays et au-delà de la question de l'art, n'étant que dans la culture, on pourrait avoir les cheveux sur la tête bien droit pendant longtemps. Donc il faut arrêter, je pense, de se rassurer avec le fait qu'il y a des systèmes qui sont encore dictatoriaux. Et puis après tout, ils peuvent fêter leurs 100 ans de révolution, ces chers russes, en rien injectant quelque chose d'un réalisme socialiste dont ils ont besoin. Par ailleurs... Oui, je crois que la question du musée et de l'archivage a toujours été une question de choix, évidemment. Même aujourd'hui dans les bibliothèques, il faut savoir qu'on jette, parce qu'il y a des documents qui ne sont plus utiles, parce qu'ils ne sont plus depuis 100 ans, 200 ans ou 300 ans travaillés. Ils ne sont plus non plus possiblement consultés et conservables aussi. Donc il y a des choix qui se font tout le temps dans toutes les bibliothèques, les musées. Enfin, pourquoi on voit ce qu'on voit au Louvre et qu'il n'y a jamais les tableaux qui sont dans les réserves? Donc toutes ces questions de choix, elles appartiennent effectivement à ceux qu'on veut montrer.
Bon, on a fait sortir Valentin Boulogne des caves.
Voilà. Mais par ailleurs, il y a toujours la nécessité précieuse et qui, moi, me manque de plus en plus, ce sont des historiens. Je trouve que les historiens n'ont pas assez la parole, parce que le problème, si vous voulez, il y a une époque où il y avait des tableaux d'histoire. Le tableau d'histoire, et je vais en parler un peu tout à l'heure avec mon coup de cœur, mais il venait toujours après l'histoire. Là, la question qui nous est posée, c'est comment on fait à la fois notre histoire et on la représente. Et on n'a pas la durée pour les choses. Donc moi, ce qui m'importe, je crois, c'est qu'il y a aussi, par le biais de la puissance des pouvoirs, et non pas du politique, même si d'un coup, la politique devient du pouvoir, comme dans les super oligarchies, qu'elles soient démocratiques ou autoritaires, il y a cette idée que l'histoire est biaisée. Et on oublie la question de l'histoire. Et je crois que les historiens redoivent reprendre, je dirais, le pas sur le discours, et pas que des critiques ou pas que des philosophes. Bon, enfin bon, quand on voit ce que c'est le degré de la philosophie en France aujourd'hui, on peut se calmer un petit peu, hein, de toute façon. Donc ce qui est important pour moi, c'est que il y a une puissance, non, enfin, il y a des pouvoirs qui viennent aussi gommer une ligne, je dirais, de discours historique. Et je crois que ce qui nous manque, c'est de pas oublier l'histoire qui est pas vieille, parce qu'on oublie l'histoire la plus proche de nous, c'est celle qu'on oublie le plus vite. Ce qui est, enfin, moi j'en ai été moi-même la victime de me dire mais comment j'ai pu oublier un truc si important. Mais c'est donc là je crois qu'au lieu d'être dans ces mots d'ordre, ces opinions qui sans arrêt ne font qu'effacer, nous demandent de prendre des positions en permanence qui ne servent à rien. Je crois qu'il faut des historiens. Pour moi, c'est ce qui est important et qui manque en fait à ces institutions aussi, enfin, à cause de la situation aussi.
Xavier Martinet.
La deuxième chose que je me disais au sujet de cette histoire, peut-être c'était moins sa portée politique, où effectivement c'est quasiment normal pour un pouvoir, quelque pouvoir que ce soit, de vouloir magnifier son histoire, et les Russes ont bien le droit de le faire aussi. Non, ce que je trouvais intéressant à un niveau peut-être plus technique et de politique culturelle, c'était, il me semblait, depuis quelques années, la fine compréhension qu'avait développé aussi le ministère de la Culture et les institutions russes de leur propre milieu culturel et de leurs propres artistes contemporains, et cette manière très intéressante, on peut en penser ce qu'on veut, en tout cas vraiment assez étonnante, j'ai l'impression, de mêler à la fois ces artistes contemporains qui sont des artistes mondiaux exposés un peu partout et on va dire non controversés, et puis aussi les ultranationalistes également, en fait tout le panel. Alors on pourra dire c'est de l'intrusion du politique dans les musées, c'est une manière de forcer la main sans forcément ternir l'image. En même temps, je trouvais que c'était un geste politique vraiment intéressant et techniquement fin. Voilà, c'était la réflexion.
Florian Guettet.
Oui, un dernier mot quand même pour dire que le régime russe a des antécédents quand même.
Ils ont une histoire, comme dirait Corinne Rondeau.
Et Poutine en particulier. Le procès de Andrei Irofev, par exemple, c'était 2009. Quoi,
l'art interdit, c'était le nom de l'exposition.
Exactement. Ouais. Puis si on voit maintenant dans les anciennes républiques communistes aussi, la politique culturelle, c'est encore très, très, très imprégné d'interventionnisme politique. Quoi. Une dernière phrase quand même, pour dire que c'est assez étonnant, regrettable même, qu'on se rende compte de la force politique d'un art que dans son versant négatif, et qu'on ne lui accorde pas le même pouvoir quand il s'agit de distribuer des subventions ou de décider de politique culturelle. Et ça, oui, encore une fois, c'est regrettable.
À suivre ici et ailleurs.